chronique coopérative en quarantaine numéro 6, dans la vallée d'Ella, en coopération et par téléphone avec Pascal Massiot de la radio Jet FM.
Rubrique.coop, la voix coopérative.
La vallée d'Ella, c'est le lieu où David terrassa le géant Goliath.
Affirmatif, Pascal, tu connais tes classiques. Mais c'est aussi le titre d'un film de 2007, un film d'une grande force, qui a été réalisé par Paul Haggis, et puis avec Tommy Lee Jones, et puis Charlize Theron.
Alors, peux-tu nous raconter brièvement l'intrigue du film pour celles et ceux qui, comme moi, ne l'auraient pas encore vu ?
Eh oui, je conseille vraiment de voir ce film, très impressionnant. En fait, l'histoire, c'est un couple d'Américains qui ont deux fils, dont un est mort en Irak, je crois, et le deuxième, plus jeune, il pensait qu'il était toujours en Irak, et en fait, l'armée américaine les appelle pour dire qu'il est considéré comme un déserteur, en fait. Voilà. Et donc, le père, qui est un ancien policier de l'armée américaine, hein, les membres de la police interne, reprend finalement l'enquête lui-même contre l'opposition des autorités pour découvrir la vérité. Mais assez rapidement, on découvre le corps de son fils mutilé, pas très loin de la base militaire. Il va continuer à se battre pour trouver ce qui s'est passé véritablement. Voilà. Et c'est là où il se rend compte que son fils a rencontré en situation de guerre en Irak à la fois l'horreur, il en a à la fois été victime mais aussi bourreau, hein, ce qu'il ne pouvait pas imaginer, et ce traumatisme a fait que finalement il s'est entretué avec ses camarades, où il a été tué dans un excès de folie dans ce groupe d'anciens GI.
Ah ben là, Hervé, tu viens de divulguer la fin. Hein. Le film délivre, selon toi, un message fort qu'il mérite.
Ben oui, c'est vrai que le suspense aurait pu être intéressant, mais la morale nécessite, hein, de connaître cet aspect-là, puisque finalement, dans la veine d'autres films anti-militaristes, dont par exemple Johnny Gottesgan ou Full Metal Jacket, hein, dans la vallée d'Ella, ouais. Nous interpelle vraiment très très radicalement, quoi, en fait. Hein, il y a une opposition entre la vision officielle qui glorifie l'armée, l'héroïsme, le patriotisme des soldats, toi, ceux qui défendent courageusement la patrie, et puis finalement le film oppose et finalement impose une vision qui est plutôt la réflexion douloureuse des parents. On peut admirer le courage de David, mais finalement la question c'est comment une société peut être aussi cruelle pour envoyer dans l'enfer de la guerre, hein, dans des situations d'horreur auxquelles ils ne sont pas préparés, auxquelles on ne peut pas se préparer, des jeunes hommes qui en reviennent, soit ils y meurent, soit ils en reviennent complètement détruits. Et finalement le parallèle c'est qui est ce roi Assaul qui accepte d'envoyer un jeune berger affronter un guerrier de 3 mètres de haut suivant le récit biblique, hein, un gars cuirassé, un spécialiste du combat, qui est lourdement armé, et on lui oppose un enfant, finalement, un berger qui a juste ramassé 5 pierres et qui a sa fronde. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ça résonne, parce que derrière les applaudissements, les louanges des héros, l'admiration de leur courage, bah, je crois qu'on commence à entendre aussi les cris de peur, la détresse, hein, les colères aussi, de ceux qui affrontent finalement une menace terrifiante, qui sont un peu au front, et avec des moyens insuffisants. Donc, comme dans le film, hein, on peut prendre conscience aussi de ça, de cette injustice, et de se dire, bah, est-ce qu'on pourra à l'avenir peut-être penser à équiper, à doter de moyens ceux qui nous protègent de façon plus efficace, et puis, sans qu'ils soient obligés de mener une fronde finalement, hein, être capable d'entendre ce qui est vraiment important, de faire attention à cette notion de sacrifice des autres, et puis peut-être ce serait encore mieux, hein, d'essayer d'éviter les guerres, de prévenir les choses, y compris par rapport à notre environnement ou à différentes formes de menaces.
Hervé, je vois bien à quoi tu fais allusion, mais quel rapport avec la coopération qui nous intéresse là, dans ta chronique ?
Oui, c'est vrai, hein, ce sont des chroniques coopératives. Donc, un des liens, c'est que, et c'est ce qui est rappelé notamment par Jean-François Drapry, hein, qui est enseignant-chercheur OCTAM, qui est vraiment un spécialiste de l'histoire et de la réalité actuelle des coopératives. Il est aussi rédacteur en chef de la RECMA, hein, qui est une revue universitaire des études de coopératives mutualistes associatives. Ben, c'est lui qui m'a signalé finalement que utopie coopérative, elle était aussi dans une dimension pacifique, en fait. Et historiquement, il y a vraiment eu des liens entre les mouvements pacifistes et les organisations coopératives, ce qui a d'ailleurs valu pas mal de critiques aux coopérateurs entre les deux guerres, hein, par rapport à le reproche qu'on leur faisait d'avoir cru à la possibilité de la paix, là où les autres préparaient déjà la guerre. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, hein, si on reprend la situation actuelle, eh ben, il reste chez beaucoup de coopératrices et de coopérateurs une méfiance aussi par rapport au mythe du héros sans peur et sans reproche, hein, le héros solitaire, on pourrait se dire, voilà, Lucky Luke sans Joey Jumper, est-ce qu'il est toujours efficient? Et puis, même dans le domaine de l'économie, que ce héros soit conquérant, dominateur, ou qu'il soit un peu prêt à sacrifier, je crois que les coopératrices et les coopérateurs, ils ont tendance à préférer un travail d'équipe et la recherche de victoires collectives plutôt que l'exaltation du courage héroïque. Hein. Là, je crois qu'il y a bien ce mythe de l'entrepreneur, hein, ou cette dialectique de l'entrepreneur seul contre tous, notamment contre la bureaucratie, cette espèce de monstrueux géant administratif. Je crois qu'il faut laisser ça au MEDEF, en fait.
Alors, dernière chose peut-être pour cette chronique, Hervé Gouil, et pour en revenir à la vallée d'Ella, le roi Sol avait quand même promis de couvrir de richesses David et de lui donner sa fille en cas de victoire.
Oui, c'est un grand classique, hein, la richesse et la main de la princesse comme récompense du héros. Mais bon, je te propose de garder la question et l'analyse des œuvres musicales du XXe siècle pour des prochaines chroniques, si tu veux bien.
Eh bien, écoute, je suis d'accord avec ça. On garde ce projet-là sous le coude, Hervé.
Très bien. Ah. Et puis, on passera peut-être une musique de David et Jonathan. À bientôt, Pascal.
Voilà. À bientôt, Hervé.
Merci.
Merci.